Voilà, on a laissé passer les 10 petites minutes académiques histoire d'attendre les dernières personnes qui vont nous rejoindre. Merci d'avoir pris le temps, votre soirée, pour venir échanger, écouter avec nous le projet, nouveau projet pour agrandir le parc éolien que vous connaissez déjà. Et on va vous le présenter, on va vous présenter l'étude d'incidence, vous expliquer comment ça va se passer pour cette soirée. Ben justement, venons-en au programme. Bon, on va dire qu'il est 19h. 19h10, mais on va rattraper un petit peu le temps, ne vous inquiétez pas. On va vous présenter le projet, le bureau d'études, comme je vous l'ai dit. Et puis, le moment le plus important, celui que vous attendez, c'est celui où vous allez pouvoir vous exprimer, poser des questions, trouver des réponses surtout. Moi, j'y veillerai, je suis le modérateur de la soirée, donc je suis là pour être le lien entre vous dans la salle, les auteurs de projet, le bureau d'études, et faire en sorte que tout soit expliqué le plus clairement possible. Pourquoi ? Parce que tout ce qui va être dit ce soir a valeur de procès-verbal. D'ailleurs, vous voyez derrière vous qu'il y a une caméra qui tourne. C'est nouveau. Dans les réunions préalables, d'informations préalables comme celle-ci, les RIP, comme on dit dans le jargon, on doit maintenant avoir une archive filmée avec tout ce qui est dit pendant l'ensemble de la présentation qui est archivé pour pouvoir servir de procès-verbal. Donc, tout ce que vous dites ce soir à la même valeur que si vous écrivez à la commune par la suite. Je vous expliquerai tout ce qui en est des délais, etc. et de ce que vous pouvez faire encore après cette soirée puisque ce n'est que l'instant zéro de ce projet. C'est à partir d'aujourd'hui que tous les délais vont commencer à courir. Alors, qui est présent ce soir? Ce n'est pas la commune de Bastogne, vous ferez la petite rectification, mais bien la commune de Jupresles. Voilà, petite coquille dans la présentation. Pour le reste, tout est bon avec le demandeur, c'est-à-dire Luminus, qui sera représenté par Maxime Honoré, qui va nous présenter le projet dans un instant. On a le bureau d'études avec Tanguy de Jagereux pour Certus, qui est là, et moi-même, Olivier Coll. Si vous écoutez la bonne radio le matin, c'est moi qui vous réveille, mais je fais aussi de temps en temps modérateur le soir. Vous voyez qu'on n'a pas vraiment d'horaire. Et je vous l'ai dit, le but c'est que tout le monde puisse s'exprimer aujourd'hui à travers, on résume ça. On va d'abord vous informer, on va vous permettre d'émettre des suggestions, des recommandations aussi parce que c'est vous qui connaissez le mieux le territoire sur lequel le projet d'éolienne arrive. On va aussi entendre peut-être des propositions d'alternatives, encore une fois parce que vous êtes les meilleurs témoins, et identifier les points particuliers à étudier. Ça c'est directement pour Tanguy qui va noter tous les points particuliers que vous voudriez voir étudier par le bureau d'études. Et puis voilà, ça c'est très important. C'est que aujourd'hui, c'est donc l'instant zéro. On va échanger jusqu'à 21h ou un peu plus tard si nécessaire. Et puis après, que vous soyez dans la salle, parce que vous êtes un peu timide, vous préférez pas parler, vous préférez écrire, vous pouvez le faire. Si d'autres personnes de la région veulent aussi prendre la plume pour écrire des recommandations, des questions, on peut le faire pendant un délai qui va courir à partir d'aujourd'hui jusqu'au 13 février. Ce slide-là, on va vous le remettre à la fin de la présentation. Et de toute façon, les adresses, vous les avez également dans le dépliant qu'on vous a distribué à l'entrée. Il y en a encore pour ceux qui en voudraient tout à l'heure. Donc, vous écrivez d'abord au collège communal de Jupresles et vous faites une copie à Luminus, en l'occurrence à Maxime Honoré. Et après cela, tous vos courriers récoltés d'ici le 13 février auront exactement la même valeur que tous ceux qui se seront exprimés ce soir. J'ai fait un peu le cadre de la soirée. On va rentrer dans le vif du sujet maintenant. Je vais tendre la petite télécommande à Maxime Honoré qui va donc vous présenter le projet pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui. Maxime, c'est à vous.
Moi, je ne permets pas...
Ah oui, j'ai oublié de...
Ce n'est pas grave, voilà. Il a déjà pris les points que je voulais citer. Moi, je vais me permettre tout simplement, au nom de la commune de Jupresles, de vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Et comme Monsieur Coll vous a dit, toutes les personnes qui souhaitent avoir un suivi, vous pouvez certainement vous inscrire. Il y aura un PV qui sera fait de cette réunion. Je vous rappelle tout simplement que cette soirée de ce soir parle de l'implantation des éoliennes sur la commune de Jupresles et plus précisément sur le village de Pèves. Donc voilà, je rappelle que, comme il a dit, c'est vraiment un échange et c'est comme ça le fait de découvrir un petit peu ce projet qu'on va pouvoir ensemble dialoguer et avancer. Donc voilà, maintenant je peux tout simplement passer la parole. Merci et bonne soirée.
Évidemment, comme on avait déterminé que Michel, votre échevin, allait prendre la parole, je l'ai oublié et je m'en excuse. Et maintenant, on passe donc au projet. Merci pour ce petit mot d'introduction avec Maxime Honoré.
Voilà, bonsoir. Maxime Honoré, donc développeur éolien. Donc, je vais juste d'abord reprendre la raison pour laquelle on est là aujourd'hui et la raison pour laquelle on place des éoliennes. Donc, je rappelle, bien sûr, il y a la lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est vraiment la raison principale pour laquelle aujourd'hui on met des éoliennes. C'est parce que c'est un moyen pour produire de l'électricité en émettant moins de CO2. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on met des éoliennes aujourd'hui, et je pense que c'est important de les rappeler et qu'il faut pas les oublier. Notamment la deuxième raison, c'est maintenir des prix de l'énergie bas. Il y a énormément de discussions en ce moment sur les prix de l'électricité qui sont parfois trop élevés en Europe. Donc il faut vraiment rappeler aussi que les éoliennes, c'est un moyen justement pour produire de l'énergie décarbonée qui vraiment en termes économiques est très intéressant. Et donc c'est un outil, l'éolienne, qui est très important pour notre transition énergétique. Le troisième point, donc, c'est augmenter notre indépendance énergétique. Donc, on se rend bien compte aujourd'hui qu'on est dans un monde avec un contexte géopolitique qui est parfois très instable. Et quand on dépend d'un acteur à l'étranger pour pouvoir s'approvisionner en gaz, en uranium, en charbon, eh bien, on peut vite se retrouver dans des situations très complexes parce que, effectivement, on dépend aussi de ces acteurs pour obtenir ces ressources. Ici, la ressource en vent, elle est directement disponible chez nous. Donc, on ne doit pas l'importer et ça nous permet de maintenir une certaine indépendance. Et enfin, le dernier point, donc, c'est couvrir nos besoins en électricité. Donc, il faut aussi pouvoir rappeler que au niveau de la transition énergétique qui est en train de se faire, on va avoir toute une série d'usages qui vont s'électrifier. Donc, par exemple, le chauffage, bien sûr la voiture, mais aussi l'industrie. Et tous ces besoins qui vont s'électrifier font qu'on va augmenter notre consommation électrique. Et donc, il va falloir produire plus d'électricité et trouver de nouveaux moyens de production. Donc ça, ce sont les raisons pour lesquelles aujourd'hui on met des éoliennes. Alors, il faut rappeler aussi donc qu'on est dans un contexte qui est européen. Donc, c'est-à-dire que au niveau européen, on a fixé des objectifs qui ont été traduits par chaque pays, dont la Belgique, et puis au niveau de chaque région. Donc ici, au niveau de la Wallonie, la manière dont les objectifs ont été traduits, c'est que la production en éolien actuelle, on a décidé de la tripler. D'ici 2030, on se rend bien compte que ça va être un peu compliqué étant donné que les temps sont très courts. Mais donc, ça signifie que la production éolienne va fortement augmenter. Cette décision de fortement augmenter la production éolienne, elle tient compte de tout un mix énergétique. Donc, on ne va pas uniquement se baser sur l'éolien onshore. On a aussi l'éolien offshore qui fait partie de la solution. On a aussi du photovoltaïque, etc., etc. Donc, tout ça est pris en compte dans la définition de nos objectifs. Alors, pour ce qui est de Luminus, donc nous en tant que demandeurs, donc on est connu, je pense, comme fournisseur d'électricité. On est aussi au niveau de l'éolien numéro un de l'éolien terrestre en Belgique. Donc c'est nous qui avons le plus d'éoliennes, le plus de capacités installées. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir construire un avenir énergétique neutre grâce à l'électricité et à des solutions innovantes. Donc on est fournisseur. Donc je viens de le dire, on est aussi producteur. Donc producteur d'électricité via les éoliennes, mais aussi on dispose de centrales à gaz, on dispose de centrales nucléaires, on a de l'hydroélectricité, enfin des parts en tout cas dans les centrales nucléaires. Et donc, on a vraiment tout un mix énergétique à notre disposition qu'on utilise. Le troisième point aussi, peut-être qu'on connaît un peu moins au niveau de Luminus, c'est qu'on est aussi, on peut être votre partenaire pour tout ce qui est solutions qui visent à réduire ou à électrifier votre consommation énergétique, que vous soyez particulier pour les panneaux solaires, etc., ou en tant qu'entreprise. On peut aussi vous accompagner au niveau de la transition énergétique. Alors, pour ce qui est ici du projet plus particulièrement de Jupprel, donc ce projet-ci, c'est un projet qui permettrait d'apporter l'équivalent de la consommation annuelle en électricité de 7500 à 11350 ménages. Donc c'est un projet de 2 à 3 éoliennes. Donc on va étudier en fait 3 emplacements d'éoliennes et on pense en tout cas qu'il y en a au moins 2 qui vont être valables, mais on va en étudier 3. C'est pour ça que je dis 2 à 3. La hauteur totale envisagée sur ce parc-ci, elle est de 200 mètres. pour une distance aux habitations qui sera supérieure ou égale à 625 mètres. Là, on est dans le nouveau cadre de référence. Avec une production estimée de 28 à 42 gigawattheures par an, donc dépendant qu'on soit pour avec deux ou trois éoliennes. Et alors c'est intéressant quand même de le noter, hein, parce que ici donc le parc actuel c'est un parc d'éoliennes de 150 mètres et qui produit aujourd'hui de l'ordre de 36 gigawattheures par an. Et on voit vraiment ici en passant sur des éoliennes de 200 mètres. Qu'on est vraiment sur un ordre de grandeur de productible qui est très important, puisque avec seulement deux éoliennes, on ajouterait 28 gigawattheures au parc existant. Voilà. Et alors, en termes de CO2 évité, donc ça représente de l'ordre de 4700 à 7000 tonnes de CO2 par an évité par rapport au mix électrique belge moyen. Alors, ça, c'est la localisation du projet. Donc là, présente sur ce slide, il faut savoir que il y a un site web également, projet, qui sera accessible et sur lequel on pourra télécharger la présentation et on pourra regarder à son aise l'emplacement de ces éoliennes. Je peux aussi, lors des questions-réponses, évidemment, le remettre. Et donc, les trois éoliennes, elles viennent en extension du parc existant. Le parc existant, ce sont les points vert clair. Et les trois éoliennes en extension, donc ce sont les points plus gros en vert foncé. Donc, c'est au nord, un peu au nord de Pève, et donc au sud-sud-est de la frontière avec la région flamande. Voilà. En termes d'étapes du projet, donc il faut vraiment se rendre compte qu'ici on est sur une réunion d'information préalable, donc on est vraiment très tôt au niveau du projet. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la réunion d'information qu'on fait aujourd'hui, elle va notamment vous permettre de mettre toute une série de remarques, de nous dire attention, prenez ceci en compte, tiens, est-ce que ce projet vous l'avez fait, vous pourriez le faire autrement, est-ce que vous pourriez proposer une alternative, des choses comme ça. Donc tout ça, vous pouvez encore le faire à ce stade. Étant donné qu'on est très tôt dans le processus, puisque vous voyez que une fois la consultation de 15 jours qui va suivre cette présentation, nous on va étudier les choses pendant encore 2 ans, en 2025-2026, et on s'attend à faire un dépôt de permis donc en 2027, donc ce n'est pas tout de suite. Et en 2027, il faut savoir aussi donc qu'il y aura une enquête publique de 30 jours où là l'étude d'incident sera publiquement accessible, tout le monde pourra aller la lire, et de nouveau vous avez la possibilité encore durant l'enquête publique d'émettre des remarques. Alors, si on fait un dépôt de permis en 2027, nous on s'attend à ce qu'on puisse construire à partir de 2029, et donc pour une durée de jusqu'à 30 ans, jusqu'en 2059. Donc c'est aussi un projet qui a un début mais qui a une fin. Hein. Donc on ne met pas des éoliennes ad vitam aeternam, ici on demande un permis pour une durée de 30 ans. Alors, les petites nouveautés, peut-être par rapport à la fois passée, c'est que aujourd'hui, dans le cadre du nouveau cadre de référence, on met l'accent sur tout ce qui est aspect participation communale et citoyenne. Donc, il faut savoir qu'un projet comme celui-ci, c'est pas mal. Il y a pas mal de retombées qui sont positives aussi pour la communauté. Donc, on peut citer notamment la taxe par mât d'éolienne qui permet d'avoir un revenu au niveau de la commune, qui permet de faire des projets après aussi via cette retombée économique. Il y a des partenariats qui sont toujours possibles. Nous, on est ouvert à discussion. Voilà, s'il y a des intérêts qui sont marqués au niveau de la commune dans ce projet. Et alors, en termes environnemental, social, il faut aussi rappeler qu'il y a aussi des retombées qui sont économiques, qui sont en termes de travail. Ça fait, il y a toute une série de gens qui travaillent derrière ces éoliennes. Hein, et, enfin, si vous voulez, tout à l'heure, vous aurez l'occasion de pouvoir poser vos questions aussi avec une des personnes qui réalise l'entretien du parc actuel, hein, puisque c'est, voilà, il y a toute une filière aussi derrière. Donc, faut oublier que c'est des emplois. Donc ça, c'est en termes de retombées locales, et alors en termes de retombées de participation citoyenne possible. Nous, on travaille notamment avec une coopérative maison, donc c'est la coopérative Lumiwin, donc je sais pas si vous connaissez. Mais donc c'est une coopérative dans laquelle on peut investir donc entre 25 euros, donc voilà, montant très faible, jusqu'à 10 000 euros. Et nous, en tout cas, sur ce type d'investissement, on essaye d'atteindre un rendement de l'ordre de 4%, en sachant que, en tout cas pour l'exercice 2025, donc l'année passée, bah, sur ces 4%, vous pouvez exonérer jusqu'à 830 euros de dividendes. Donc c'est quand même des choses assez intéressantes. Si c'est des choses qui vous intéressent, donc voilà, il y a moyen de se renseigner au niveau du site web de LumiWin, lumiwin.be. Et il y a moyen aussi de nous poser vos questions par mail ou par téléphone. Voilà, je vais maintenant passer la parole au bureau d'études agréé.
Voilà, c'est au tour de Tanguy de Jaegereux maintenant de prendre la parole, qui va nous présenter le bureau Certius et aussi le cadre de l'étude d'incidence.
Tout à fait. Bonsoir à tous, Tanguy de Jaegereux. Donc moi je suis là pour vous parler effectivement de l'étude d'incidence, et je vais être un peu plus spécifique pour les études d'incidence qui concernent les projets éoliens. Mais je vais commencer par vous présenter le bureau d'études Certius. Donc on est un bureau avec plusieurs domaines d'expertise. Tout d'abord l'environnement, c'est pourquoi je suis là ce soir. Donc on fait des études d'incidence sur l'environnement, des études d'impact. On accompagne des entreprises dans le cadre de leur demande de permis d'environnement, de certification ISO, ce genre de choses. On a également un département spécialisé dans le sol, donc tout ce qui est études de pollution de sol, projet d'assainissement. On a également des experts en sécurité, donc ça concerne plutôt les sites industriels, par exemple les sites qui sont classés Seveso, qui ont des obligations en matière de reporting, de rapport de sécurité. Et on a également des juristes spécialisés en législation environnementale. Donc on est actif dans les trois régions, Bruxelles, en Flandre et en Wallonie. Et bien entendu, on est agréé pour la réalisation d'études d'incidence. Donc les études d'incidence pour des projets tels que les projets éoliens, n'importe quel qui ne pourrait pas le faire. Donc il faut avoir un agrément qui est délivré par les ministres compétents en région wallonne et qui est basé sur notre expérience, nos profils en interne et nos compétences. Et finalement, c'est des agréments qui sont délivrés pour une période de 3 à 5 ans. Donc on doit refaire des demandes pour le renouveler. Et c'est un peu la garantie de notre travail d'expert, mais également de notre indépendance et neutralité vis-à-vis des projets, parce que cet agrément peut nous être retiré si on estime que nous ne sommes pas neutres ou que notre boulot est mauvais, et donc on perd notre boulot en somme. Donc on ne le souhaite pas. Donc qu'est-ce qu'une étude d'incidence de manière générale? Donc comme j'ai dit, c'est un rapport d'un expert indépendant qui va être joint à la demande de permis. Donc il faut savoir que comme toute une série d'autres documents, dans une demande de permis, il y a des plans, il y a des avis, il y a plein de choses, et il y a l'étude d'incidence qui occupe une bonne place. Cette étude d'incidence vise à identifier, décrire et évaluer les incidences d'un projet sur l'environnement, que ce soit des effets directs ou indirects. Donc quand on parle d'effets directs, ça va être, on pense par exemple dans le cas d'un projet éolien à l'impact visuel, l'impact que peut avoir un projet dans le paysage, et indirect, ça va être d'autres choses, comme par exemple le raccordement électrique. Ces effets à court, moyen et long terme. Donc comme on l'a dit, un projet éolien, un permis est délivré pour une période de 30 ans. Donc c'est un laps de temps dont il faut tenir compte également dans l'évolution possible du milieu. Et on évalue les incidences d'un projet lors de la construction, donc pendant la phase de chantier, le charroi des camions, etc. Pendant l'exploitation, bien évidemment, et également pendant la phase de démantèlement. L'étude d'incidence doit également d'évaluer les alternatives possibles à un projet. Donc les alternatives, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être des alternatives qu'on appelle techniques. Donc est-ce qu'il y a d'autres modèles d'éoliennes, d'autres gabarits, d'autres tailles d'éoliennes qui conviendraient mieux sur le site? Ça doit être évalué dans l'étude d'incidence. Et ça peut être des alternatives en termes de localisation. Est-ce qu'il y a d'autres sites qui conviendraient mieux? Ou même de configuration sur le site choisi. Donc sur le site ici de Juprel, est-ce qu'il y a moyen de mettre les éoliennes sur une autre configuration qui pourrait être meilleure? Est-ce qu'il y a des extensions possibles ou autres? Et on doit également former toute une série de recommandations. Enfin, on formule des recommandations qui sont à l'attention du demandeur, ici de Luminus, qui vont lui permettre de faire évoluer son projet et éventuellement d'améliorer celui-ci. Donc ça, c'est plutôt des recommandations en cours d'étude. Mais on a également des recommandations en fin d'étude qui sont plutôt à destination de l'autorité compétente. Donc si c'est la région wallonne, qui vont pouvoir être prises, par exemple, comme condition dans un permis si celui-ci devait être délivré. On se doit également d'apporter des réponses aux demandes, remarques et suggestions du public, donc qui seront formulées ce soir et qui n'auraient pas été répondues ce soir, ou qui seront formulées dans les 15 jours qui vont suivre cette soirée par courrier. Donc on reprend une synthèse de ces courriers dans l'étude d'incidence et on essaye de répondre au mieux aux remarques et aux questions qui sont soulevées. Donc en gros, c'est un outil d'évaluation d'un projet, parce qu'on va vraiment étudier l'impact du projet en lui-même. C'est un outil d'orientation pour le promoteur, car ça lui permet aussi de faire évoluer son projet, de l'améliorer. C'est un outil d'information, car comme je l'ai dit, l'étude d'incidence va être disponible au moment de l'enquête publique, et donc vous pourrez la consulter. Et au-delà du volet vraiment étude d'impact, il y a également tout un volet descriptif dans l'étude d'incidence, donc on va vraiment décrire le projet en lui-même, le chantier, etc. Donc c'est vraiment un outil d'information important. Et c'est un outil d'aide à la décision pour l'autorité qui va se baser sur l'étude d'incidence, mais aussi sur d'autres avis, pour prendre une décision sur le projet. Et donc il faut savoir qu'on n'écrit pas, comme j'ai dit, on est agréé, donc on ne peut pas écrire n'importe quoi. Donc il y a une évaluation de cette étude qui est faite par des instances, elles aussi indépendantes, qui sont les pôles environnement et les pôles aménagement du territoire. Donc ils vont vraiment évaluer, d'une part, l'opportunité environnementale du projet, donc ils vont quand même remettre un avis sur le projet en lui-même, mais ils vont également évaluer la qualité de l'étude d'incidence. Alors au niveau de la procédure de demande du permis, on a déjà un petit peu parlé, donc ici on est vraiment à stade au temps zéro, donc au niveau de l'avant-projet, de la réunion d'information et de la consultation du public, va suivre l'étude d'incidence, donc qui n'a pas encore vraiment commencé, et qui va permettre d'optimiser via nos recommandations ce projet, et on va tenir compte également de cette consultation préalable ici. Et une fois que l'étude d'incidence sera terminée, ben là il y aura vraiment un projet définitif qui sera déposé et qui fera l'objet d'une demande de permis. Il va suivre alors ce qu'on appelle une phase d'instruction administrative, durant laquelle les fonctionnaires délégués techniques de la région Wallonne vont demander toute une série d'avis. Donc ils vont demander l'avis de la commune, l'avis des instances aéronautiques, l'avis du DNF, de la cellule bruit, les commissions consultatives d'aménagement du territoire, si on a dans les communes concernées. Donc tous ces avis vont être demandés. Il y aura en parallèle une enquête publique de 30 jours, comme j'avais dit, durant laquelle le dossier sera consultable et dans laquelle vous aurez également la possibilité de faire à nouveau des suggestions et des remarques sur le projet, mais cette fois-ci en toute connaissance de cause, hein, parce que c'est souvent un peu la frustration qui émane de ces réunions préalables, c'est qu'au final, il n'y a rien d'encore vraiment très concret au niveau du projet. On ne sait pas exactement où sont les éoliennes, quels sont les modèles, etc., quels sont les impacts. Donc à ce moment-là, tout sera bien défini. Et donc sur base des avis qui sont remis, de l'étude d'incidence et des remarques émises lors de l'enquête publique, on va dire que les fonctionnaires de la région Wallonne auront vraiment tout en main pour prendre une décision sur le projet. Donc cette phase dure généralement 5 à 6 mois. Alors au niveau du contenu même d'une étude d'incidence, donc ici c'est vraiment un contenu très spécifique au projet éolien. Donc une des premières choses qu'on va faire, on va analyser ce qu'on appelle les critères d'implantation. Donc comme on l'a déjà dit, en Wallonie, on ne malgré tout pas des éoliennes n'importe où, il y a certaines règles, certains critères à respecter qui sont notamment dans le cadre de référence éolien wallon, mais pas que, il y a des instances qui ont leurs propres critères de distance, par exemple, je vais y venir. Donc il y a les distances à l'habitat, où là on va faire une différence entre les zones d'habitat au plan de secteur, donc vraiment les noyaux villageois, et les habitations qui se retrouvent hors zone d'habitat au plan de secteur, donc souvent en zone agricole. Il y a la distance aux infrastructures, donc il peut y avoir des lignes de tension, des lignes fluxis de transport de gaz, même des pipelines autant, il y en a, je pense, dans la région. Il y a des liaisons hertziennes, donc ce qu'on ne voit pas, donc c'est des faisceaux de télécommunications qui relient des antennes, qui peuvent être perturbées également par les éoliennes et pour lesquelles il y a des distances de garde à respecter. On va évaluer le projet et son implantation par rapport aux zones d'intérêt biologique, donc les zones Natura 2000, les sites de grand intérêt biologique. On va également évaluer sa localisation par rapport aux zones d'intérêt paysager. Donc, il faut savoir que sur les territoires wallons, il y a ce qu'on appelle des périmètres d'intérêt paysager, qui sont vraiment des surfaces qui ont été définies comme présentant un certain intérêt. Il y a des points de vue remarquables également, des lignes de vue remarquables qui existent. Et donc, on va évaluer comment s'insère le projet par rapport à celle-ci. Et également, très important, la localisation du projet par rapport aux autres parcs éoliens. Donc ici, on est dans le cadre d'une extension. Donc évidemment, on va tenir compte des éoliennes existantes, mais pas que. La région fait l'objet quand même de nombreux projets éoliens. Et donc, tous ces projets seront pris en compte dans l'évaluation des impacts potentiellement cumulatifs du projet avec ses parcs voisins. Donc par thématique, je commencerai par le plus important, le milieu humain. Donc évidemment, le cadre de ville et le paysage sont quelque chose qui sont abondamment évalués dans l'étude d'incidence. On fait ces fameux photomontages que vous avez peut-être déjà vu passer dans l'étude d'incidence qui avait eu lieu pour le parc existant. On va évaluer quel pourrait être l'impact du projet sur le patrimoine, les biens classés. On évalue le bruit, donc c'est vraiment très important. L'impact acoustique, une éolienne fait quand même du bruit. Et donc ça, on évalue ça en faisant tout d'abord une campagne de mesure du bruit ambiant, donc du bruit qui est déjà existant sur le site sans les éoliennes. On réalise ensuite des modélisations pour vérifier si le projet peut respecter les normes en vigueur. Et on va également ajouter le bruit modélisé au bruit ambiant pour voir s'il y a un impact, est-ce que les éoliennes seront audibles ou pas. On va étudier l'ombre mouvante, donc ce qu'on appelle l'effet stroboscopique. Donc, comme vous savez, les pales qui tournent et l'ombre de ces pales peuvent avoir un effet gênant au niveau des habitations, au niveau des lieux de travail. Et donc, il faut en tenir compte dans l'étude également. Et on évalue également l'impact du projet sur l'aspect socio-économique. Les infrastructures, comme je l'ai dit, ben, il y a des servitudes liées à l'aviation qui existent. Il y a des lignes de tension, il y a des voiries, il y a des distances aussi avec ces voiries à respecter. Donc tout ça sera évalué en détail. Au niveau du milieu physique, donc là on parle souvent du sol, du sous-sol, des eaux souterraines. Donc est-ce qu'il y a des risques de pollution au niveau de l'éolienne, des pollutions du sol, la présence d'huile ou autre? Est-ce qu'il y a des barrières qui sont mises en place pour éviter ces risques? Donc tout ça sera évalué. Au niveau des eaux de surface, ça va être plutôt des risques liés à l'imperméabilisation du sol, au ruissellement des eaux de surface. C'est des thématiques importantes sur lesquelles on accorde de plus en plus d'importance justement vu les problématiques liées par exemple aux inondations. Alors au niveau de la qualité de l'air, là ça va plutôt être un impact positif, hein. Comme on l'a dit, ben, les éoliennes ont l'avantage de produire une électricité décarbonée, donc ça va être estimé sur base d'un gain d'émissions de CO2 par rapport à d'autres sources de production d'électricité. Souvent on compare ça à ce que produit une centrale TGV en termes d'émissions de CO2. Au niveau du biologique, c'est également un aspect très important. Donc, on va faire une description des habitats naturels présents sur le site. On l'avait déjà fait il y a plusieurs années parce que c'est nous qui avons réalisé l'étude d'incidence sur le parc existant. Évidemment, on va être tous à jour. Le temps a passé. Donc, on va refaire des nouveaux relevés sur le terrain et aux alentours. Et en accordant évidemment une attention particulière, on sait qu'il y a certaines espèces d'oiseaux, certaines espèces de chauves-souris qui sont assez sensibles aux éoliennes. Et donc c'est surtout sur ces espèces-là qu'on va mettre le focus. Donc une fois que tout ça a été évalué, ben on formule toutes ces recommandations qui ont pour but d'éviter, quand c'est possible, réduire, voire compenser, quand les deux premiers ne sont pas suffisants, les incidences négatives que pourrait avoir le projet si celui-ci devait être autorisé. Évidemment, on tient compte des spécificités de chaque projet. Donc, les études d'incidence en éolien suivent globalement le même canevas, mais je vais vous dire qu'elles sont très différentes l'une des autres parce que chaque zone, chaque projet a ses spécificités. Donc, le nombre d'éoliennes, la dimension, leur gabarit va également va fortement jouer dans l'évaluation des incidences. Les impacts cumulatifs, comme j'ai dit, très importants dans le cas de ce projet-ci, vont être évalués en détail, que ce soit au niveau du bruit, au niveau de l'ombre, au niveau du paysage. Et aussi très important dans le cas de ce projet, les impacts transfrontaliers. Évidemment, on ne va pas s'arrêter à la frontière wallonne. On va étudier les impacts sur les zones d'habitat, sur la faune en Flandre également. Et donc, on tient compte des spécificités de chaque site. Donc, comme j'ai dit, on a déjà fait une étude il y a quelques années sur le projet. On va retourner sur place, refaire des photos, refaire des relevés. Mais après, la zone a pu évoluer. C'est là que vos connaissances des lieux est importante. Donc, si vous avez des remarques, des suggestions, vous connaissez certaines espèces d'oiseaux qui nichent sur place, des points de vue dont il faudrait qu'on tienne compte, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Ici, je vous montrerai quelques exemples, et c'est marrant parce que c'est un exemple qu'on utilise souvent, et en l'occurrence, ben, c'est le parc existant ici de Juprel. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour évaluer l'impact d'un projet, l'impact visuel sur le paysage. C'est un des outils qu'on utilise, c'est des cartes de visibilité qui sont simplement des modélisations en fonction de la taille d'éolienne, du relief et des zones, de la présence ou non de zones boisées. On est capable de dire sur un territoire donné où les éoliennes seraient théoriquement visibles. Et donc tout ce qui est grisé, ça va être les zones où elles ne sont pas visibles. Ici, et tout ce qui est en rouge, c'est les zones d'habitat. Donc ici, par exemple, c'est une carte qu'on avait fait à l'époque pour le projet et le parc existant de Juprel. Bon, vous voyez qu'au niveau d'un bon nombre de zones d'habitat, Juprel, Wyonne, PEV, le parc est théoriquement visible. Après, ça ne prend pas en compte la densité du bâti, par exemple. Donc, au cœur des villages, évidemment, on a une visibilité moins importante sur le parc, mais en sortie ou au niveau des zones de sentiers autour, ici, on voit qu'il y avait une grande visibilité. On réalise ici, par contre, ce n'est pas le parc de Juprel, mais des photomontages. Donc on va sur place, au niveau des endroits qui nous semblent les plus pertinents, on prend des photos panoramiques et via un logiciel, on va incruster les éoliennes pour avoir une vue la plus réaliste possible de ce que sera, ce que donnera le paysage avec les éoliennes. Ça nous permet d'évaluer la visibilité du parc, sa visibilité, la configuration, etc. Au niveau du bruit, on fait ce des modélisations, donc pour vraiment modéliser la dispersion du bruit autour d'un parc. Donc le bruit qui sera généré ici, par exemple, uniquement par un parc d'éoliennes, c'est les points bleus là. Et donc on définit des récepteurs, donc c'est les petits points bleus tout autour, qui sont les habitations autour d'un parc éolien. Et donc au niveau de ces habitations, on est capable de prédire le niveau de bruit qui sera généré par le nouveau parc en projet. Et évidemment, de comparer ce niveau de bruit aux normes en vigueur. Et si ces normes ne sont pas respectées, alors on fait des recommandations, si c'est possible, de prévoir ce qu'on appelle des programmes de bridage acoustique. Donc on va faire tourner l'éolienne à une puissance plus faible que sa puissance maximale, mais également elle va faire moins de bruit. Par exemple, c'est possible de nuit où les normes sont un peu plus strictes. Au niveau de l'ombre portée, donc l'ombre mouvante, c'est un peu le même principe, hein. Donc on fait aussi des modélisations de l'ombre autour et donc on est capable au niveau de chaque habitation riveraine de donner une durée d'exposition au phénomène d'ombre mouvante. Ça va être une durée maximum par jour ou une durée annuelle et de comparer ça aux normes. Par exemple en Wallonie, les normes c'est maximum 30 heures d'ombrage par an, 30 minutes maximum par jour. Et si on constate que ces normes théoriquement peuvent être dépassées, alors on recommande d'équiper les éoliennes, et ça se fait assez régulièrement maintenant, de systèmes techniques, ce qu'on appelle un shadow module. Donc c'est un dispositif d'immobilisation temporaire qui va permettre d'arrêter l'éolienne lorsque les conditions météo sont favorables à la propagation d'ombre au niveau d'une habitation. Donc c'est entre guillemets maîtrisable techniquement, et ça permet de respecter ces normes de 30 heures par an et 30 minutes par jour. Oui, si c'est un petit rappel de votre participation, donc j'aime bien quand même insister sur le fait qu'il y a, au-delà de la réunion d'information de ce soir et des 15 jours qui vont suivre, il y a toujours l'enquête publique qui aura lieu une fois que le demande de permis sera déposé, qui est un moment important également dans lequel vous aurez toutes les informations sur un dossier exhaustif, entre guillemets. Voilà, c'est tout pour moi. Pour l'instant.
Merci beaucoup Tanguy de Jaegereux, donc qui a présenté le cadre de cette étude d'incidence qui va arriver dans la suite du calendrier qu'on vous a présenté tout à l'heure. Le moment important c'est maintenant, puisque après avoir écouté de façon bien attentive tout ce qui vous a été dit, vous allez pouvoir vous exprimer. Alors le but de la soirée, c'est pas de convaincre qui que ce soit, évidemment. Vous avez votre avis, on va tenter de l'éclairer. Et dans l'autre sens aussi, hein, c'est bilatéral, vous l'avez entendu, on attend vos précisions, vos propositions également. Donc tout cela est le bienvenu. Je rappelle que tout est acté dans l'archive vidéo avec la caméra qui tourne. Donc tout ce que vous dites ce soir à valeur de procès-verbal sera transmis au bureau d'études via la commune de Juprel qui nous reçoit ce soir. Alors on va peut-être passer au slide suivant pour revenir sur le plan, parce que c'est ça qui va pouvoir nous permettre aussi de guider certaines questions quand on parlera de la topologie des lieux. Et je ne sais pas qui veut ouvrir le bal des questions ou des propositions ce soir, mais allez-y, il faut toujours un premier, il faut toujours un dernier. Si vous voulez vous exprimer, moi je viens vous balader le micro, je garde le micro, monsieur, j'ai l'impression que vous avez envie d'y aller, donc je viens chez vous. Alors on commence toujours, nom, prénom et localité, histoire qu'on sache qui s'est exprimé.
Bon, André Lout de Liège. Je viens surtout au niveau de la biodiversité. J'ai noté que le parc va avoir 50 mètres de hauteur de plus. Donc au niveau de la route migratoire, il faudra peut-être y faire attention. Et puis ma question aussi, c'est de savoir au niveau biodiversité, la taille de l'étude, parce qu'on sait bien qu'il peut y avoir des impacts jusqu'à 1 km des éoliennes. Et pour terminer là-dessus aussi, est-ce qu'il y a des mesures qui seront suggérées au niveau biodiversité si c'est nécessaire, au niveau visuel, au niveau du sonore et au niveau bridage, puisqu'on sait que quand on diminue, on coupe les éoliennes à très basse productivité, il y a une mortalité chez les oiseaux et chez les chauves-souris qui est bien moindre.
Voilà, on parle faune donc avec cette première question. Alors le fait de passer de 250 à 200 mètres, c'est quelque chose qui va être mesuré par l'étude d'incidence. Vous avez déjà peut-être des cas précédents par rapport à l'impact ?
Oui, tu vois, une petite précision. C'est vrai qu'on parle d'éoliennes ici qui font 150 mètres hauteur de pale sur les existantes et ici qui vont faire 200 mètres. Il faut savoir qu'au-delà de cette hauteur totale, ici, généralement, les rotors des nouvelles machines de 200 mètres sont plus grands. Donc, la nacelle va pas être à 50 mètres plus haut que les éoliennes existantes en principe. Donc, ça, c'est une première précision. Après, effectivement, pour l'impact, éventuellement, les déviations des migrations, ça peut jouer. Bien que c'est peu documenté encore à l'heure actuelle, mais généralement on va plutôt voir même un effet positif et augmenter la taille des machines. D'ailleurs, parce qu'il y a surtout sur les chauves-souris qui volent généralement au plus près du sol, on fait des suivis généralement en altitude au sol et la majorité, la très très grande majorité de l'activité se passe à hauteur du sol, donc entre 0 et 10 mètres. Et donc augmenter la taille des machines justement permet de diminuer l'impact entre guillemets d'un projet sur la biodiversité. Et ça va être le cas également pour des espèces d'oiseaux type busard qui ne volent pas tellement haut et donc qui risquent moins d'avoir ces collisions avec les pales.
Et paradoxalement, il y a d'autres espèces qui sont plus impactées quand on monte.
Éventuellement, oui, les espèces qui volent à plus haute altitude en migration, où on pourra avoir des déviations de trajectoire un peu plus.
Alors, monsieur demandait aussi quel était le périmètre qui allait être étudié autour de ce projet.
Plusieurs périmètres. On a un périmètre vraiment d'études immédiates qui est de 500 mètres, mais au-delà de ça, on va récolter toutes les données dans un périmètre de 10 km autour. Donc là, on va prendre toutes les bases de données disponibles, que ce soit ici en Flandre ou en Wallonie, auprès du Demna, Natagora, pour récolter les infos sur la présence d'espèces dans un rayon de 10 km, parce qu'il y a des espèces qui ont effectivement un domaine vital plus important. C'est un peu moins le cas ici, mais des espèces qu'on rencontre plutôt en milieu ardennais, comme la cigogne noire, un nid à 2 km pourrait être impacté par un projet éolien, par exemple.
Alors vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important aussi. On va étudier au-delà de la frontière linguistique, on ne s'arrête
tout
pas.
Tout à fait, oui. Voilà. Surtout pour encore plus. Enfin, pour les habitants aussi, mais pour les oiseaux, ne s'arrêtent pas à la frontière.
On est bien d'accord et merci de la précision. Et puis il y avait une autre question, enfin une dernière question qui parlait de l'importance du bridage sur la mortalité de certaines espèces.
Ben, les bridages en biodiversité, c'est surtout effectivement pour les chauves-souris, mais ça va pas être c'est pas vraiment un bridage, on appelle ça toujours bridage pour les chauves-souris, mais c'est plutôt un arrêt des éoliennes. Donc on va vraiment les arrêter pour avoir un risque de mortalité de zéro quand les conditions sont favorables à la sortie des chauves-souris. Donc ça va être à tomber du jour, enfin au début de la nuit, pendant un certain nombre d'heures, pendant des conditions météo qui sont déterminées, l'absence de pluie, un certain niveau de température, des vitesses de vent qui sont vraiment propices à l'activité des chauves-souris, où là on va arrêter les éoliennes dans un but de vraiment de diminuer au maximum le risque de mortalité. Et maintenant c'est des bridages qui sont appliqués pour l'ensemble des parcs en Wallonie, ce qui n'était pas le cas peut-être il y a 15 ans.
Alors merci pour cette première question et cette première réponse. Alors, on signale quand même que du côté de Luminus, il y a Benoît Van Giebergen qui vient de s'ajouter et qui pourra potentiellement aussi répondre à vos questions. Et on l'a dit tout à l'heure, l'asset manager qui gère le parc existant pour Luminus, David Petitfils, est également avec nous dans la salle. Comme ça, les présentations complètes sont faites. Qui veut enchaîner avec une autre question ou je vais aller au fond de la salle et arriver sur le volet communal des choses.
Bonsoir, donc Jonathan Greves de la commune de Juprel. J'avais une toute petite question. Donc on a, dans le cadre du premier parc, on a ouvert toute une série de voiries. Donc c'était un gros chantier pour nous, donc en collaboration avec Reza à l'époque. Donc je suppose, enfin j'espère en tous les cas, que les sections de câbles ont été prévues pour... si le projet devait voir le jour, évidemment, les sections de câbles sont prévues pour amener donc cette énergie vers le réseau. Voilà.
Sur le parc existant, vous voulez dire, hein, se raccorder sur les... Pour le réseau. Oui, c'est ça. Alors, c'est une question pour Luminus. On va en demander si le réseau qui est à proximité est déjà dimensionné pour pouvoir permettre d'avoir ces deux ou trois éoliennes en plus sans devoir procéder à des travaux. J'imagine que c'est en substance la question de Monsieur Léchevin.
On va essayer au maximum effectivement d'utiliser les câbles existants. Je pense qu'on peut en tout cas mettre une éolienne avec les câbles qu'on a aujourd'hui, mais il faudra étudier avec le gestionnaire de réseau si pour deux ou trois éoliennes on peut utiliser encore le câble qui passe aujourd'hui. Donc ça va faire partie de l'étude avec le gestionnaire de réseau.
Je viens pour qu'on aille bien le son de tout ce qui est dit, hein, excusez-moi.
Excusez-moi. Donc ça sera repris donc sur le même cheminement qui avait été utilisé lors du premier projet ?
Oui. Vraisemblablement, oui, sauf s'il existe un chemin plus simple. Mais je suppose que si on est passé par là pour le premier projet, c'est qu'il n'était pas possible de passer ailleurs. Maintenant, voilà, si demain vous me dites « moi j'ai un chemin beaucoup plus simple, passer par ici » et que ça a du sens, il faut le prendre en compte. Enfin, c'est pour ça qu'on discute aussi. Si à un moment donné vous me dites « moi je sais qu'il aurait fallu passer autre part », Il faut nous le dire, voilà.
On est d'accord, mais c'est pas moi qui fais le projet, hein. C'est vous.
Non. Mais non, dans l'état actuel des choses, j'ai envie de dire, on risque de devoir passer par le même endroit, sauf si on trouve un passage plus pratique, voilà.
Et ça, c'est une fois qu'on sera sur un permis définitif, qu'on pourra le déterminer et revenir sur ce point. À ce stade-ci, vous ne le savez pas encore.
Non. Voilà. Non, donc on va devoir faire une étude de détail avec Reza.
Ouais. Évidemment, s'il y a deux ou trois éoliennes, ça change aussi la donne en ce qui vous concerne, on l'a bien compris. Alors, je me retourne, hein, levez la main, je viens à votre demande pour entendre toutes vos propositions et vos questions. Madame, allez-y.
Paula Defresne, OT. Je peux tenir un micro. Ah, bon, d'accord. Je voulais savoir, vous aviez parlé de retombées financières pour les communes. J'aurais bien voulu savoir de quel montant était la taxe par pied d'éoliennes. Et alors, la deuxième question, c'est la vitesse de décrochage quand il y a des grands vents. J'aimerais bien savoir à quelle vitesse de vent les éoliennes s'arrêtent.
Alors, deux questions sensiblement différentes. La première, les retombées pour la commune par le biais des taxes qui vont être imposées. Vous connaissez ces montants en ce qui concerne le parc de Jupreil, Maxime Honoré ?
Oui, donc au niveau des montants, en fait, ce sont des montants qui vont dépendre de la puissance de l'éolienne. Donc ici, sur des éoliennes de 200 mètres, on peut aller jusqu'à du 6 mégawatts. Donc ça signifierait qu'on est sur la taxe maximale, je pense, qui tourne autour de 17 500 euros par mât. Par an, voilà.
Et alors l'autre question, on peut peut-être enchaîner directement.
Oui. Alors l'autre question, donc sur la question des vents. Alors je ne sais pas si toi Benoît, tu sais par cœur, mais alors le vent maximal, je ne sais pas vous donner le chiffre exact, mais effectivement, à un moment donné, si le vent est trop fort, qu'il y a une forte tempête, etc., bon, à un moment donné, l'éolienne va se mettre en sécurité. Mais on a quand même des plages de fonctionnement qui sont assez larges, donc c'est pas quelque chose de courant, quoi, je dirais.
Et le fait de ne pas pouvoir donner la vitesse maximum, ça dépend du rotor, du moteur qui va être mis en place.
Oui, ça va dépendre du modèle d'éolienne, effectivement, et donc du constructeur.
Ça peut varier,
etc.
Grosso modo.
Souvent, c'est au-delà de. Généralement, ça tourne autour de 23-25 mètres par seconde.
Et en kilomètre-heure, oui, pour que...
En kilomètre-heure, on peut demander à Google. Hein. Ouais. C'est vrai qu'on parle souvent en mètres par seconde, mais on pourra voir après si vous voulez en kilomètre-heure.
On fera le petit calcul pour 20, répondre à madame.
Au-delà de 20, en tout cas.
Plus on monte, plus les vents seront forts. Donc, vous allez décrocher plus souvent.
Ben, oui et non. Donc, c'est-à-dire que quand il y a une tempête, peu importe qu'on soit en haut ou en bas, je veux dire, c'est un état de fait... Et à un moment donné, il faut pouvoir couper l'éolienne. Mais de manière plus générale, quand on va monter plus haut, en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on va rechercher parce que ce qu'on veut, c'est avoir un vent plus fort de manière plus constante. Voilà. Pour avoir le long de l'année, on va aller chercher des vents plus forts en moyenne. Même si c'est vrai qu'en termes de tempête, à un moment donné, ça ne devient plus possible. Mais je veux dire, pour autant qu'on ne soit pas dans une situation critique qui, peu importe finalement, la hauteur va poser problème, de manière générale, on va aller chercher des vents qui permettent de faire tourner l'éolienne avec plus de puissance. Sinon, on ne le ferait pas, évidemment.
En complément,
les plages de fonctionnement des modèles d'éoliennes maintenant permettent quand même d'aller sur des vents qui sont quand même assez importants. En moyenne, un vent à hauteur de nacelle, c'est 6-7 mètres par seconde. Donc ici, on parle d'un arrêt de mise en sécurité de la machine à 25. Donc c'est vraiment des vents très forts. Quoi. 25 mètres par seconde, c'est énorme.
Alors, on enchaîne chez monsieur. Vos noms, prénoms, localité.
Michel Delos, 4452 Ouillogne. Donc moi, ma question, c'était un petit peu de savoir, enfin j'étais un peu surpris finalement d'avoir la possibilité de mettre des éoliennes de 200 mètres par rapport à un parc existant de 150 mètres. Puis quelque part, les effets de sillage de l'éolienne la plus grande de 200 mètres par rapport au parc éolien existant, celle de devant, qui est plus proche de Wiogne. Et puis, quelque part, je suis un peu surpris aussi de sa position, puisque quelque part, il y a une conduite de gaz qui est à proximité. Et donc, j'imagine que la distance d'éloignement par rapport à la conduite de gaz est plus grande, étant donné qu'on a une éolienne de 200 mètres. Et puis, il y a tout simplement l'aspect paysager, puisque quelque part, on dit que quelque part, il faut une harmonie dans le paysage. Bon, la logique voudrait qu'on ait que des éoliennes de 150 mètres de haut. Voilà.
Pour l'harmonie du paysage, on peut peut-être commencer là-dessus. En fait, on est quoi, dans une nouvelle génération d'éoliennes qui justifie le fait qu'on aille plus haut par rapport au projet initial qu'on connaît et qui est déjà implanté?
Oui, c'est ça. Donc, ici, au niveau des hauteurs d'éoliennes, petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance, on va vers des éoliennes de plus en plus grandes parce que la technique le permet. Bon, elle ne le permettait pas avant. Et le fait de monter plus haut, ça permet vraiment d'aller chercher des productibles beaucoup plus importants. C'est ce que j'ai dit tantôt avec les 28 gigawattheures par rapport au parc existant. Il y a quand même vraiment fait un saut vraiment important. Et donc, ce qui se passe, c'est que dans le monde, la demande pour des éoliennes de 150 mètres a fortement diminué, pour ne pas dire elle est en train de disparaître. Et donc aujourd'hui, la production d'éoliennes de 150 mètres n'est plus assurée. Et même à 180 mètres, ça devient compliqué. Donc si aujourd'hui on fait une demande de permis pour des éoliennes à 180 mètres, il n'est pas certain qu'on puisse mettre en œuvre le permis, parce qu'il n'est pas certain qu'on trouvera des éoliennes de cette taille-là une fois le permis octroyé. Donc aujourd'hui, il y a des contraintes techniques, voilà, de constructeurs qui font qu'on est obligé de monter plus haut. Maintenant, en termes d'impact paysager, ça c'est clair que ça va être étudié dans l'étude d'incidence. Donc voilà, maintenant on sait que d'expérience, cette différence de 50 mètres de hauteur reste encore acceptable, d'autant que, comme on l'a dit, on est sur des hauteurs de hub, donc de nacelles, qui sont quand même relativement similaires. Et donc, on peut essayer de trouver des modèles.
Donc, c'est les pales qui sont plus grandes, en fait.
Et c'est les pales qui sont plus grandes. Et donc, on peut essayer de trouver quand même une forme d'harmonie à ce niveau-là.
Vous allez avoir l'effet de sillage par rapport aux autres éoliennes, ouais, qui sont plus petites, quelque part. Donc, une perte de productivité sur les éoliennes plus petites qui sont derrière.
Oui, c'est...
Aérodynamique, c'est comme ça.
Oui, ça, il faut aussi avoir une distance minimale par rapport aux éoliennes existantes, parce que sinon, effectivement, on diminue trop fortement le productible. Et il y a un optimum à trouver, quoi.
La distance par rapport à la conduite de fluxis qui est dans le terrain.
Oui, c'est parfait. Oui, tout à fait. Et donc, c'est pour ça que je parle notamment de 2 à 3 éoliennes, c'est parce qu'il faut notamment qu'on étudie cette problématique-là, parce que cette conduite passe un peu en travers. Et donc, c'est un des points de...
Ça, c'est une question précise tout à l'heure aussi. Est-ce que, comme l'éolienne est plus haute, la distance vis-à-vis de cette conduite va devoir être plus grande aussi, Tanguy de Yagerman?
Ouais, tout à fait. Il y a des distances de sécurité avec des formules qui sont calculées en fonction du gabarit des machines et qui varient selon la taille du mât de l'éolienne. Donc, effectivement, une éolienne plus haute aura une distance de sécurité plus importante à respecter vis-à-vis des conduites Fluxis. Mais après, Fluxis est consulté et, entre guillemets, c'est Fluxis qui conditionne cet avis-là. Et si Fluxis dit non, c'est pas possible, c'est pas possible.
Voilà pourquoi on parle beaucoup de entre 2 et 3 éoliennes. Donc, sur les 3 sites, vous estimez que, grosso modo, il y a beaucoup de chances qu'il y ait 2 éoliennes qui soient implantées si le projet est accepté et passe les différentes étapes.
Voilà, c'est ça. Oui.
Merci. Monsieur.
Alors, plusieurs questions. Renaud Jacob, je suis président de Le Vent Tourne et j'habite Wiogne. La première, là vous avez 3 éoliennes. À combien d'éoliennes votre projet est rentable? À 1, 2 ou 3? La deuxième, il y a d'autres parcs aux alentours qui sont en cours de construction ou en cours d'études, style Vreeren, style entre les 3 villages Wiogne, Hauté, Xandremal, à Ouen, donc je suppose que vous allez en tenir compte. Et de fait, il y aura certainement de l'encerclement et donc une visibilité on doit pouvoir ne pas voir les éoliennes à 45 degrés ou 90 degrés, je ne sais plus exactement.
Alors, on prend les choses dans l'ordre. D'abord, la rentabilité. 1, 2, 3 éoliennes. À partir de quel moment c'est rentable pour Luminus?
Oui. Alors, il n'y a pas une question définie, il n'y a pas une réponse définitive par rapport à ça, parce qu'on dépend des conditions de marché qui évoluent et des prix de l'électricité, des prix de la machine, etc. Et donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément demain. Et donc, ce sont des choses qui vont pouvoir être clarifiées au moment où on prend une décision d'investissement. Mais donc, c'est clair que pour être certain de la rentabilité, plus on a d'éoliennes et mieux c'est. Hein. Donc, voilà. Mais c'est pas interdit que ça puisse être rentable avec une seule éolienne. Surtout si au niveau du raccordement, on a la capacité disponible et que finalement, on ne doit plus retirer un
câble. Le fait d'être à côté d'un parc existant, ça vous facilite un peu la vie
voilà,
à ce niveau-là.
Voilà. Ouais.
Très bien. Alors, on va passer maintenant peut-être juste sur le phénomène d'encerclement, sur les autres parcs en projet également dans la région qui seront pris en compte dans votre étude d'incidence.
Tout à fait. Donc, dans l'étude des impacts cumulatifs, comme on appelle ça, on tient compte aussi bien évidemment des éoliennes existantes que celles qui sont autorisées, mais également des projets et ils sont nombreux. Où là, on fait plutôt une évaluation un peu maximaliste et indicative parce qu'on doute bien que parfois tous les projets ne verront pas le jour.
Donc ça veut dire que vous prenez tous les projets en sachant très bien qu'ils ne seront pas tous réalisés à terme.
Ouais, c'est une évaluation maximaliste, on va dire. Et au niveau de l'encerclement, c'est également un critère important. Donc le cadre de référence préconise, je ne peux pas préciser, c'est d'avoir depuis les villages un angle libre d'éolienne de 130 degrés. Donc il faut pouvoir avoir une direction que ce soit à l'est, au nord, au sud, 230 degrés libres d'éoliennes au niveau d'un village. Donc c'est le critère d'encerclement qui est évalué et qui sera évalué en tenant compte généralement d'une situation réaliste avec les parcs autorisés existants et une situation maximaliste où on tient compte également de tous les projets autour qui sont en Flandre, en Wallonie.
Voilà pour la réponse à monsieur. Voilà, qui veut enchaîner, ben allez-y.
Pour le moment, donc, c'est une extension déjà. Donc, Renaud Jacob aussi encore. C'est une extension. Donc, qu'est-ce qui dit qu'on n'en aura pas encore d'autres? Là, la première question. La deuxième question par rapport au courrier qu'on doit transmettre. Avant, on pouvait l'envoyer par mail à la commune. J'aimerais bien savoir si c'est toujours possible.
À mon avis, ça doit être possible. On posera la question à la commune. Je vois que Monsieur Léchevin, Philippe Michel me fait opinion du chef. Donc, on communiquera une adresse email également pour le courrier électronique en fin de séance. Et c'est vrai que c'est le moyen le plus adapté pour pouvoir émettre vos avis dans la suite du délai légal jusqu'au 13 février. Je rappelle au passage. Et du coup, j'ai oublié votre premier point.
Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir d'autres éoliennes?
Ah oui, dans le projet, dans le parc ici, est-ce que à terme Luminus pourrait venir dire ben tiens, on a une extension maintenant, une autre extension encore dans quelques mois ou quelques années pour étendre encore le parc de l'entité.
Donc spécifiquement sur ce parc-ci, je pense que ça va être compliqué parce qu'il y a quand même des contraintes en termes de distance aux habitats qui font que la possibilité d'implantation est quand même limitée. Maintenant, pour donner une réponse plus générale, je veux dire, il y a rien qui empêche de continuer à faire des extensions. Hein. Mais ici, je pense que c'est un peu compliqué. Voilà.
Vous voulez peut-être.
Angèle Nissan veut simplement dire que c'est pas aujourd'hui qu'on va nous dire qu'il y aura une extension ou pas. Bien entendu, c'est tout à fait normal. La possibilité y est, mais ce qui se passera dans X années, vous n'êtes peut-être pas capable de le dire aujourd'hui, mais vous ne le diriez de toute façon pas.
Ben, ça dépend aussi du cadre de référence. Il y a des évolutions du cadre de référence. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que il faut vraiment analyser le contexte légal au moment où on fait la demande de permis. Ici, le contexte fait que, comme je dis, je pense que c'est difficile. Maintenant, le contexte, il peut évoluer. Les distances aux habitats peuvent évoluer. Et donc, on réexamine le projet à chaque fois avec les nouvelles données. Donc, c'est pour ça que, voilà, ça peut toujours...
Oui, mais c'est pas un non catégorique parce que, voilà, vous ouvrez la porte à une opportunité qui viendrait dans la suite malgré tout. Bon, ben voilà, c'est la transparence de la soirée aussi, hein, c'est de pouvoir être franc et de pouvoir dire les choses comme elles sont. Alors, on va aller chez une autre personne.
Bonjour, moi je m'appelle Pierre Audry, je suis de Liège et je représente la coopérative SB Energy qui a déjà investi dans une éolienne dans le parc existant. Nous sommes d'ailleurs très contents de la collaboration avec Luminus. Cette éolienne est très efficace et nous plaît beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on a des éoliennes? Parce qu'on est convaincu que c'est nécessaire dans le paysage énergétique de la Belgique, mais du monde entier pour la transition. Tout ça a été expliqué en début. Et voilà. Alors, nous, on est, quand je dis nous, c'est SB Energy, mais dans le projet, on a également d'autres coopératives, Coopérélique et Bronsgrün. Nous sommes des coopératives d'énergie renouvelable citoyenne. Et donc, nos investisseurs, ce sont des coopérateurs citoyens qui mettent des parts, enfin qui mettent un peu des sous pour acheter des parts, qui nous permettent d'acheter des moyens de production. Les moyens de production génèrent de l'énergie électrique dans ce cas-ci, qui est revendue à une coopérative que l'ensemble des coopératives d'énergie renouvelable citoyennes ont créée et qui s'appelle Cociter et qui permet aux coopérateurs d'acheter cette énergie locale, verte et citoyenne. Et donc, on espère que Luminus va nous vous ouvrir la possibilité d'acheter une des trois éoliennes si le cas arrive.
Voilà, alors la demande de SB Energy est claire. Est-ce que la porte est ouverte chez Luminus pour cette proposition? Et finalement, c'est une prolongation puisque la collaboration apparemment existe déjà.
On peut en tout cas prendre contact, prendre vos coordonnées. Soit... Bon, j'ai compris qu'on avait déjà travaillé ensemble, hein, donc. Mais voilà, on en reparlera.
Et ça, c'est que vous ayez deux ou trois éoliennes, ça va changer quelque chose par rapport à une participation citoyenne éventuelle sur la propriété.
J'ai envie de dire oui, parce que si on en a qu'une, évidemment, ça va être compliqué de la donner.
Oui, c'est encore juste. Oui. Mais à partir de deux, on discute.
Je pense qu'il faut en parler. Voilà.
Voilà, ça va. Mais la porte n'est pas fermée.
Elle n'est jamais fermée. Hein.
Elle n'est jamais fermée. Très bien. Vos noms, prénoms et localités.
Philippe Vandeloise à l'heure. Quand on regarde le schéma d'implantation, les lieux d'implantation des éoliennes qu'on voit ici et l'extension, quand on voit aussi vos concurrents, on est frappé par la localisation juste à côté de la frontière entre les régions. Ça ressemble un petit peu à un effet d'aubaine, apparemment, un peu comme les stations essence à Martelange, là, juste de l'autre côté. Qu'est-ce qui est derrière ça? Est-ce que l'étude d'incidence pourrait au moins comporter un tableau comparatif donnant les contraintes à respecter en région flamande, en région wallonne, également les aspects économiques tels que les niveaux de subsidiation ou des choses de ce style-là. Pourquoi cet effet juste de l'autre côté de la frontière, quoi?
Et la question, évidemment, elle est frappante en ce qui concerne ce parc. Alors peut-être d'abord sur les différentes cadres de référence entre le nord et le sud du pays. Tanguy de Jagereux, ouais. Qu'est-ce qui est différent finalement avec l'autre côté de la frontière linguistique?
Oui, il y a pas mal de choses qui sont différentes. Hein, la législation est différente. Ici, on a parlé du cadre éolien wallon qui définit les distances à respecter par rapport à l'habitat, par exemple, qui n'existe pas en Flandre où il y a pas vraiment de distance minimale à respecter par rapport aux zones d'habitat, ça va plutôt être en termes de respect des normes de bruit ou d'ombre qu'on va plutôt définir une implantation. Et après l'étude d'incidence, nous on n'a pas le rôle de faire une étude de planification territoriale de l'éolien sur la province de Liège ou sur les frontières. Ici je pense que ça s'explique par les distances à l'habitat où on a peut-être des zones d'opportunité, mais ça se reflète aussi bien je pense, pour un peu d'expérience du côté flamand, on peut aller du côté de Bassange, il y a aussi bien de projets de chaque côté de la frontière. On a parlé de Vreeren, c'est également le cas.
En fait, on fait rarement des projets qui passent sur
transfrontalier,
une...
non, c'est ça. C'est pas...
Frontalier
vraiment...
ou ouais. Transrégion, en tout
ouais,
cas.
Oui, c'est ça. Ben, d'un point de vue législatif, c'est pas possible, tout simplement. Je pense c'est un établissement en région wallonne, un établissement en Flandre. Et mais après... On constate que le développement éolien est aussi bien présent en Flandre qu'en Wallonie, si pas plus.
Ça, c'est pour le comparatif. Est-ce que c'est quelque chose qui sera présenté dans l'étude d'incidence comme le suggère monsieur?
En tout cas, nous, on fait un inventaire de tous les parcs en projet, autorisés ou existants dans un certain rayon, ce qu'on appelle le périmètre lointain. Donc ici, qui sera sans doute de l'ordre entre 15 et 20 km autour du parc. Là, on inventorie tous les projets.
Le comparatif entre les normes.
Oui, ça, tout à fait, exactement. Donc, surtout pour le bruit, l'ombre, on va donner les normes également qui sont applicables en Flandre. Après, il faut savoir que l'établissement est situé en région wallonne, donc c'est les normes wallonnes qui sont applicables même en Flandre.
Mais pour indication, elles seront présentes.
Elles seront présentes.
Ok. Alors après, on parlait d'effet d'aubaine. Là, c'est plutôt une question pour Luminus, j'imagine. Est-ce que le fait de venir se placer comme ça, vraiment en bord de la région wallonne, aux portes de la région flamande, c'est un effet d'aubaine de Luminus, ou est-ce que c'est vraiment des notions géographiques, des nombres de vents, etc., qui vous amènent si proche?
Non, pour moi, c'est un hasard. Donc, il n'y a pas de volonté de se mettre le long de la frontière ou quoi. C'est un hasard. Voilà, il y a un projet qui peut se faire à cet endroit-là, mais. Pas de raison particulière.
Pourrait avoir un autre projet à ouvrir un tongre juste de l'autre côté de la frontière linguistique qui serait porté par Luminus. Il y en a un aussi, mais d'accord.
Il y en a aussi d'ailleurs de l'autre côté.
On pourra en introduire à nouveau.
Il y en a aussi, ouais.
Peut-être juste pour compléter un petit peu, c'est vrai que bon, la région wallonne elle est quand même très 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 petite, hein, donc on n'a pas un territoire qui est sans fin, et bon, on a des différents logiciels qui ont d'analyse paysagère, d'analyse de terrain qui ont été présentés, donc ce qu'on a pu voir tout à l'heure au niveau des différentes distances à respecter, donc finalement l'analyse se fait sur base de ces différents critères, et de là ressortent certaines zones qui se présentent comme étant propices à du développement éolien, et parmi ces différentes contraintes, ben, les limites, je vais dire frontalières, ne sont pas en elles-mêmes une contrainte qui joue vraiment un rôle dans la définition. Évidemment, ben, comme tu le disais, nous, on respecte la législation de la région wallonne, on développe en région wallonne, donc fort logiquement, on va occuper tout l'espace disponible, qu'on soit en limite de la zone en question ou non. Donc tous les projets qu'on développe, que ce soit pour Maxime ou pour moi, sont dans la région wallonne, dans toutes les limites possibles, quoi.
Alors, je sais pas s'il y a quelqu'un qui veut encore prendre la parole. Je vais d'abord aller chez ceux qui ne se sont pas exprimés, en l'occurrence Madame à l'avant, et puis je retournerai vers ceux qui veulent réenchérir.
Bonjour, Brigitte Vandenbroek, j'habite à Wiogne et ma maison est située juste en face des 5 éoliennes qui sont implantées actuellement. Je me demandais au niveau des distances vis-à-vis de l'habitat, est-ce que ce sont toujours les mêmes ou est-ce qu'elles ont évolué? Je crois que c'était 625 mètres. Est-ce que c'était le cas quand vous avez implanté les 5 précédentes ou pas?
Alors, il y a peut-être une petite précision parce que la hauteur du mât va avoir une importance dans ce calcul, Tanguy.
Tout à fait. Donc, il y avait le cadre de référence de 2013 qui était d'application au moment où l'autre parc était implanté, qui préconisait une distance de 4 fois la hauteur totale des éoliennes. Donc, c'était des aides de 150, donc 4 fois 150, on était à 600 mètres. Ici, ce cadre de référence a été revu en 2024 et a diminué cette distance par rapport aux zones d'habitat qui est maintenant de 500 mètres plus la moitié de la hauteur totale de l'éolienne. Donc pour une éolienne de 200 mètres, on va être sur 600 mètres. Donc c'est toujours la même distance, mais pour des éoliennes plus hautes.
Le calcul
de référence a évolué surtout, comme l'a déjà un peu expliqué Luminus, parce que on se rendait compte qu'il y a un besoin donc d'implanter des éoliennes en région wallonne et qu'il était trop strict pour les éoliennes 4 fois 200 mètres, on serait à 800 mètres. Donc, c'est des éoliennes qu'on, potentiellement, le territoire est quand même assez restreint, qu'on ne sait plus mettre. Or, c'est les seules éoliennes qui arrivent, malheureusement, à disponibles sur le marché. Donc, le cadre de référence a évolué dans cette optique-là également. Et donc, qui permet d'avoir.
Un peu plus permissif, mais finalement, la distance du pied du mât jusqu'à la maison
est la même.
Ne change pas.
Mais pour des éoliennes de taille différente.
C'est ça.
On vous l'accorde.
Alors. Je retourne à l'arrière. Alors, je vais chez monsieur qui ne s'est pas encore exprimé. Tout le monde aura droit à la parole ce soir.
Oui, Marc Gérard Hautet. Alors, j'ai des remarques et une question. Est-ce que, par rapport aux éoliennes actuelles, vous avez déjà fait un relevé d'impact sur la vie faune et les chauves-souris pour pouvoir comparer?
Je réponds tout de suite. Il me semble pas. C'est vrai que nous, on travaille surtout en phase d'avant-projet, donc l'étude d'incidence, une fois que le permis est fait, il y a des conditions d'exploitation en termes s'il y a des suivis à faire et qui sont imposés, c'est à l'exploitant de le faire. C'est pas le cas dans tous les permis. Ici, je ne sais pas si c'était le cas dans ce permis-ci, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, nous, ce qu'on va faire, c'est dans le cadre ici de la demande d'extension, on va évaluer l'impact on va essayer d'évaluer la situation avec le projet. Donc les relevés qui vont être faits au niveau de la zone vont pouvoir démontrer déjà, par exemple, on parlait des migrations tout à l'heure, si on fait des relevés migratoires, en période migratoire, s'il y a des déviations, des oiseaux, etc. Et on peut, par exemple, dans certains cas, profiter aussi de la présence des éoliennes pour faire des relevés au niveau chiroptérologique sur les éoliennes existantes où on place des détecteurs même à hauteur de nacelle, ça évite de mettre des mâts. Mais c'est pas fait systématiquement, ça dépend des projets, de la sensibilité du projet au niveau des enjeux biologiques également.
Alors ça c'est pour la question et votre remarque.
Une deuxième question quand même, vous dites que c'est une durée de 30 ans et après on met de nouvelles éoliennes pour un temps parce que l'énergie, il faudra toujours en avoir, ça c'est indispensable, on ne sait pas faire autrement, ou alors on enlève d'abord aussi le béton qui est dans le sol. Hein. Et voilà, si c'est juste un projet éphémère de 30 ans.
Et qu'en est-il du cycle de vie des éoliennes, puisque qu'est-ce qu'on fait dans 30 ans finalement avec les éoliennes qu'on propose d'installer ici et celles qui sont déjà là?
Donc au niveau des éoliennes, donc dans 30 ans, donc ce qui se passe, c'est que on peut faire ce qu'on appelle un repowering. Donc on refait une demande de permis pour pouvoir mettre de nouvelles éoliennes plus récent, donc ça arrive maintenant petit à petit, hein, en Europe sur certains parcs plus anciens, et il y a des pays qui étaient très en avance sur l'éolien et donc qui sont déjà en plein dans les repowering partout. Donc ça c'est une possibilité. Et donc ce qu'on fait, c'est donc les éoliennes qui sont démantelées, donc elles vont être recyclées, donc pour la grande partie des matériaux de l'éolienne sont recyclables, hein, donc c'est tout ce qui est métal, voilà, donc tout ça va pouvoir être recyclé. Et donc parfois maintenant ce qu'on voit arriver, c'est qu'on a des éoliennes qui sont remises en état, donc c'est un peu comme des voitures d'occasion, je veux dire, mais on refait à neuf. Donc on va remplacer vraiment les éléments qui fonctionnent pas et on va essayer de les remettre. Il y a certains marchés pour ça, notamment dans les pays de l'Est, où en fait on va réutiliser l'éolienne.
Éolienne de seconde main, quoi.
Voilà.
C'est ça.
Oui, bah un peu comme un smartphone. Finalement.
Alors, si on vient ici au nord de Pève, la question de monsieur, c'est OK, on va recycler les éoliennes, on enlève le béton qui est dans le sol, etc. Et puis quoi, on va donc refaire un permis pour installer d'autres éoliennes et on verra bien à quelle génération d'éoliennes on est dans 30 ans.
Voilà, c'est ça. Donc, si on souhaite en mettre de nouvelles, ben, on doit refaire une demande de permis. Donc, c'est vrai. Voilà, on refait le processus.
Attendez, je vais. C'est complémentaire, j'en viens chez vous après, hein, monsieur, madame.
Pardon. Angélique Routiot, 44-50 Juprel. Qui finance le démantèlement et comment est-ce que le site va être mis en place, en fait?
Oui, donc,
en fin de cycle de vie. Hein.
Oui, donc là, il y a une différence importante aussi par rapport à la France, parce que je me rends compte qu'en France, le mécanisme n'est pas tout à fait le même, mais donc en Belgique, le démantèlement est pris en charge par le demandeur, donc ici Luminus. Et donc il y a également un dépôt, une garantie qui est mise de côté, notamment pour s'assurer que ça va pouvoir être fait. Mais donc on est entièrement responsable de ça. Et donc
même si Luminus tombe en faillite d'ici les 30 ans,
même si on tombe en faillite,
le montant est mis de côté, quoi, en clair.
Est-ce qu'il y a des garanties financières, oui, en fait, pour pouvoir parer à cette situation?
Oui, tout à fait. Donc le montant en fait qui sera nécessaire pour le démantèlement est mis de côté en garantie bancaire.
Alors, je reviens chez monsieur et puis je viendrai chez vous puisqu'il y avait un complément.
Alors, quelques remarques. À Juprel, vous avez une vallée qui va jusque Glon, qui est assez exceptionnelle pour la région esbignonne. Voilà, donc il faudrait quand même y penser au niveau paysager notamment. Il existe quand même, parce que vous avez parlé dans vos relevés éventuels, il y a une route touristique, la route des Clochers, qu'un groupe de Juprel a créé avec d'autres associations, groupe Histoire Environnement, parce qu'il n'y avait rien au niveau touristique, c'était terra incognita à une époque ici, hein, on ne connaissait pas Juprel, tout ça. Et puis alors il y a quand même, comment je vois les éoliennes de Hauté, de jour comme de nuit, bon, ça, on les voit quand même, alors qu'elles sont quand même entre guillemets loin, ça quand même, ça frappe. Et alors, il y a un site à Hauté, le site d'une bataille du Moyen-Âge, c'est un site assez rare pour la Belgique ou la Wallonie, et qui mérite peut-être d'être conservé au niveau paysage. Et je fais référence à Zincourt, où ils se sont battus pour défendre le site de la bataille. Nous, on a ôté, il ne faudrait peut-être pas le perdre, quoi.
Voilà, c'est plutôt des observations, hein, c'est acté évidemment dans ce que vous dites. Je ne sais pas si ça mérite une réponse, mais en tout cas, voilà. En tout cas, il y a trois points bien précis dans votre observation. Je ne sais pas s'il y a une réaction, mais je crois qu'on peut enchaîner hein, avec monsieur.
Une petite question par rapport aux pales d'éoliennes dans le parc existant. Les éoliennes, il y avait un système pour limiter le bruit. Et c'était des éléments qui étaient ajoutés sur les pales. Malheureusement, on en a retrouvé un peu partout sur dans les champs. Donc, ça ne tenait pas vraiment, ce système-là. Donc, voir qu'est-ce que vous allez faire sur les nouvelles pales d'éoliennes. Et puis, une question qui rejoint madame derrière qui posait la question par rapport au démantèlement. On parle beaucoup de béton de surface, mais vous mettez des pieux quand même qui sont assez profondément enfouis, au moins à 30-40 mètres. Ceux-là, ils vont rester ad vitam aeternam. Je ne vois pas comment est-ce que vous allez enlever ces pieux-là, puisque ça permet de tenir l'éolienne par rapport aux efforts sur celle-ci, les moments de flexion, etc. Donc, ce n'est pas possible d'enlever ces pieux qui sont profondément enfouis dans le sol. Maintenant, par rapport au... Il y a aussi une autre question avec les faisceaux hertziens. Je sais qu'il y en a deux sur la zone en question. Et donc, de voir un petit peu par rapport à l'extension du parc éolien, comment est-ce que les deux faisceaux hertziens viennent dans la zone en question, puisque je sais qu'il y a une des éoliennes qui avait dû être déplacée à l'époque en fonction du fait qu'on interceptait un des faisceaux hertziens. Et puis, je me posais encore une petite question technique. Quelque part, par rapport aux trois éoliennes, j'ai bien l'impression que c'est celle du côté Touillogne qui est la moins probable, finalement, à cause des conditions fluxis, à cause des conditions faisceaux hertziens, et peut-être même pour le câblage, pour aller jusqu'à la cabine de tête.
Vous êtes plus ou moins du même avis chez Luminus, vous imaginez, sur le 2 sur 3, il y en a déjà une que vous estimez moins probable que les deux autres.
Oui, c'est ça. Donc, il faudra vraiment voir si, au niveau de fluxis, ça peut passer. Donc, là, on va devoir faire une analyse de risque, mais c'est effectivement un peu problématique. Et donc, je sais pas par rapport, donc à l'IBPT, donc, tout ce qui est fait sur RT, en fait, on doit faire des demandes d'avis. Et donc, dans ces cas-là, on transmet la coordonnée de l'éolienne et l'IBPT fait une simulation pour vérifier qu'on impacte ou pas leur faisceau. Et donc, en fonction de ça, on a un avis positif, négatif ou bien un avis circonstancié. Voilà. Donc, ça, effectivement, on en tient compte, bien entendu. Et alors, je ne sais plus.
Vous parlez des pieux qui restaient là.
Les pieux, donc effectivement, en fait, tout ce qui est le massif en béton en lui-même, donc lui, il va être retiré parce que ce qui est important, en fait, c'est de rendre à la terre sa fonction première. Hein, donc, si c'est une terre de cultivation, il faut qu'on puisse continuer à la cultiver. Les engins mécaniques, ils vont parfois très profondément en terre. Et donc, il faut qu'on retire suffisamment profondément pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on faisait avant. Par contre, les pieux qui sont plus profondément enfouis, ceux-là vont rester en terre, effectivement. Et on est sur des matériaux inertes. Hein, donc, il n'y a pas de risque de contamination par la suite, mais ça va rester.
Alors, le point un peu original de la question de monsieur, c'était ce dispositif qui a été placé sur les pales pour réduire le bruit et qui apparemment serait envolé. C'était recherche et développement. Il y avait, ce que je connais, on n'a encore jamais entendu parler de ça. Donc,
j'ai pas d'avis.
C'est vrai que ces dispositifs, c'est quelque chose qui était souvent pas standard à l'époque, mais maintenant qui se met de manière standard, c'est des peignes. Hein, donc, c'est sort comme sur les ailes d'un oiseau. En fait, c'est inspiré de la nature, qui permettent de réduire le bruit aérodynamique des pales. Et c'est vrai que sur certaines éoliennes, un peu d'expérience, je sais bien que ça a déjà été ajouté par après.
Et là, ça s'envole, alors que quand c'est
conçu à la base, ça s'envole plus. Par contre, normalement, c'est des dispositifs qui...
Oui, mais je confirme que sur les anciens modèles, c'était quelque chose qui n'existait pas. Donc effectivement, il y a eu un petit côté recherche et développement sur les premiers modèles. Après, je ne connais pas le cas que vous expliquez, parce que je suis assez récent aussi dans la société, donc j'étais pas là à l'époque. Mais donc c'est quelque chose qui est, si vous le racontez, c'est que ça s'est produit. Mais il faut savoir qu'effectivement, au début, ça n'existait pas et que maintenant, ce sont des choses qui sortent d'usine sur certains modèles.
Donc plus de risques de s'envaler.
On n'a plus ce risque-là. C'est vrai que bon, ça a fait ses preuves. On s'est rendu compte, en tout cas, je pense qu'il y a plus d'endroits où ça a dû tenir que l'inverse, parce que je n'avais jusqu'à présent pas encore entendu parler de ce cas-là. Mais donc, ça a fait ses preuves. Et donc, pas mal de constructeurs le mettent maintenant directement d'usine. Donc, c'est quelque chose qui ne se produira pas sur des nouvelles éoliennes.
Voilà, monsieur.
Donc Renaud Jacob, par rapport à la photo, on regarde un rectangle, on va dire gris, à côté d'une éolienne, c'est l'établissement de Pèves. Et donc, est-ce que si c'est elle, est-ce que ça veut dire que la distance entre l'éolienne et les habitations n'est pas tenue en compte pour l'établissement Pèves?
Est-ce que au plan de secteur, par exemple, l'établissement de Pèves, qui est en assuré là juste au-dessus du nom du village, est considéré comme zone d'habitat ou pas?
Je n'ai pas encore vraiment étudié la question, mais j'imagine que non. À mon avis, ça doit être une zone de services et d'équipement communautaire au plan de secteur, pour lequel effectivement il n'y a pas de la distance par rapport à nos habitats est différente. Si après, s'il y a vraiment ce qu'on appelle une habitation qui est hors zone d'habitat, généralement il y a une distance de 400 mètres qui est préconisée. Après, pour des établissements comme celui-ci, c'est un peu particulier, un peu dans un entre-deux. Il y a des gens qui travaillent, des résidents qui vivent. Donc ça peut être un peu comme le cas. On a le cas par exemple souvent dans les conciergeries en zoning. Où il y a des projets d'éoliens aussi qui sont développés des fois très proches de ces conciergeries. Et donc on accorde nous-mêmes, au-delà des distances qui sont respectées ou pas, évidemment une attention particulière dans l'étude à évaluer l'impact sur les résidents de la même manière qu'on le ferait pour une zone d'habitat.
Donc là, on est trop tôt, ça va être tant pendant l'étude d'incidence, ouais, que ça va être analysé.
Ce sera bien tenu compte dans l'étude d'incidence.
Oui, bien sûr. Okay. Merci pour cette précision. D'autres... Ah oui, monsieur, je ne suis pas encore venu chez vous. C'est vrai, vous aviez levé la main tout à l'heure. La parole est à vous.
Bonjour, Axel Thomas de Crisney. Donc, on a un projet éolien aussi qui est en cours par Edicio sur notre commune. Et on a un souci avec les chauves-souris. Et là, je sais qu'il y a un mât qui va être mis et qui va comptabiliser pendant un certain nombre de mois. Quand je vois la disposition des éoliennes déjà présentes, on pourrait déjà s'en servir. Comment être sûr que d'avoir ce comptage-là? Parce que vous avez dit certains projets oui, certains projets non, mais ce serait mieux oui. Alors ça, c'est ma première question. La deuxième.
On répondrait peut-être à la première et puis on continue comme ça. Pour le PV, c'est plus facile. Voilà. Alors les chauves-souris, est-ce qu'on va mettre un mât de comptage pour un peu voir quel est le milieu par rapport au nouveau projet?
Je vous avoue que j'ai pas encore étudié la question si c'était prévu ici, mais généralement on prévoit un mât quand on a des nouveaux projets de plus de 6 éoliennes. C'est des recommandations du DNF, plus de 6 éoliennes ou qui sont implantées en lisière de zone boisée ou en zone forestière. Maintenant il y en a aussi, donc on est généralement à moins de 200 mètres d'une zone forestière, on prévoit l'implantation d'un mât de mesure. Ici c'est vrai qu'on pourrait profiter des éoliennes existantes pour se passer de ce mât de mesure pour faire un détecteur au niveau des éoliennes présentes.
Donc c'est l'éolienne qui servirait de mât finalement.
Exactement, ça évite.
Je sais qu'il existe des peintures pour éviter l'effet flash. Est-ce que c'est envisagé ici ou pas du tout?
C'est peut-être chez Luminus.
Je sais pas, par effet flash, on voulait dire quoi exactement?
Il y a des revêtements de peinture qui ne font pas une réflexion au niveau du soleil, donc un effet flash. Donc je sais qu'il existe.
Ah oui, normalement oui, le revêtement sur l'éolienne est censé empêcher justement la réflexion. Ouais.
Regardez. Si c'est
oui, 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 oui. Okay.
Alors une question à l'Assemblée. Donc je suis de Crisney et on va avoir un projet éolien qui ressemblera plus ou moins à la quantité de ce que vous avez ici. Est-ce qu'il y a des décrochages déjà maintenant dans le photovoltaïque? Donc c'est plutôt à la salle que je pose la question.
Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer par rapport à un décrochage potentiel sur les installations privées en PV. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Voilà pour le petit sondage des Crisnétois par rapport aux habitants de la commune de Jupreil. On est là pour ça aussi, hein, en échange entre voisins. Ça peut faire partie de cette soirée sans problème. Vous avez été au bout de vos points. Voilà. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres personnes qui veulent s'exprimer. On n'est pas obligé de passer la soirée dessus. Hein. Si on a fait le tour, on a fait le tour. Et de toute façon, ce n'est que le moment zéro, on vous l'a dit. Bon, ben, j'ai bien l'impression que tout le monde a pu s'exprimer ce soir. Je vais clôturer peut-être cette soirée d'abord par vous remercier parce qu'il y a eu une écoute des propositions, c'était assez riche ce soir. Vous avez été attentif, respectueux, et c'est ça le but, hein, c'est que on se parle, on échange. Ce n'est que le début. Je me permets de rappeler ça. On va donner une adresse email peut-être pour la commune. Alors, je vais aller vers Philippe Michel. Alors on va donner l'adresse.
Voilà, c'est urbanisme@juprel.be.
Voilà, urbanisme@juprel.be pour le courrier électronique qui était demandé. L'adresse postale, vous l'avez. L'adresse électronique pour Luminus, vous l'avez également. Donc on vous demande d'écrire à la commune de Juprel avec une copie à Luminus, en l'occurrence à Maxime Honoré directement, qui est le porteur du projet. Et vous avez jusqu'au 13 février pour adresser ces courriers. Je rappelle que tout ce que vous avez dit ce soir ne doit pas être doublé par un courrier. Hein, c'est déjà acté par le procès-verbal en vidéo. Mais si vous avez des voisins, d'autres personnes qui veulent poser une observation ou une question d'ici le 13 février, ce sera évidemment envoyé aussi au bureau Cersus qui en tiendra compte pour l'étude d'incidence, qui est donc la prochaine étape dans ce projet. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une bonne soirée. J'ai l'impression que Luminus a prévu un petit verre pour ceux qui voudraient échanger et poursuivre peut-être le débat en one-to-one, face à face. C'est ce qu'on va faire dans les prochaines minutes. Encore merci. Bonne soirée à tous.